Chapitre 9. Megumi marchait aussi vite qu'elle pouvait, ne s'arrêtant que rarement pour reprendre son souffle. Son cartable lui faisait mal au dos, d'autant que ce jour-là, il s'était alourdi d'une flûte traversière dans son étui. La voix du fantôme s'en échappa. « Megumi, que se passe-t-il ? Horatio-san, ce n'est pas le moment. Je suis en retard à mon cours de flûte. Et si je vous parle maintenant, les gens que je croise risquent de me prendre pour une folle. Excusez-moi, je n'avais pas réalisé que nous étions en pleine rue. » Le couvercle a dû bouger pendant que tu marchais, alors j'ai pensé que je pouvais te parler. Ah, il n'y a pas grand monde après tout, ce n'est pas grave. Ah, j'ai raté mon bus, catastrophe, je vais devoir courir maintenant. Elle se mit à détaler, mais après 200 mètres, elle dut s'adosser un instant à un mur pour reprendre des forces. À nouveau, le fantôme parla. « Megumi, tu as réfléchi à la manière de contacter ce monsieur, Saito ?» Ah oui, on va tout simplement chercher son adresse dans l'annuaire. Il habite peut-être encore à Tokyo, répondit Megumi tout essoufflé. L'annuaire ? Oui, c'est un gros livre avec tous les numéros de téléphone et les adresses des habitants de la ville. On ne sait jamais. Et penses-tu que nous pourrions repasser par le parc prochainement ? Megumi emplit d'air ses poumons. Ah, vous voulez revoir Madame Kawauzo, n'est-ce pas ? Vous ne seriez pas amoureux, Horatio-san ? Comment oses-tu ? Il se ravisa avant de confesser. « Peut-être bien. C'est le vrai coup de foudre, alors. Mais attention, on dit qu'il faut se méfier des yokai. » Megumi retrouvait une respiration normale. « En tous les cas, on ne pourra pas y aller aujourd'hui. Mais demain, c'est promis. Pour le moment, il faut encore que je cours, Horatio-san. Je ne pourrai plus vous répondre, je vous préviens. » Elle avala une grosse bouffée d'air et s'élança, rouge et en sueur. « Silence !» cria Monsieur Toronaga. Le petit homme à la barbe en pointe semblait prêt à exploser. D'un œil noir, il balaya tous les élèves de son cours de flûte. Plus une mouche ne volait dans la salle du conservatoire. La foudre pouvait tomber sur n'importe qui à n'importe quel moment. Finalement, le professeur tendit la tête de sa flûte traversière en direction de Megumi. Les deux élèves qui la flanquaient s'écartèrent imperceptiblement. « Megumi, je sais que c'est toi. » gronda-t-il. « Moi ? Qui ? Quoi ?» bredouilla Megumi. « Tu as joué faux. Cela aigu était horrible. J'ai bien entendu que ça venait de toi. » Megumi baissa la tête. « Je ne sais pas, Toranaga-sensei. Et tu penses peut-être que moi, je ne sais pas ? Je croyais que tu avais travaillé les changements d'octave. Mais je l'ai fait, je vous assure, sensei. Vraiment ? Et quand ? Ne me mens pas. Eh bien, admit Megumi, avant les vacances et... » Monsieur Toranaga n'en voulait plus. « Avant les vacances, dis-tu, tu sais pertinemment que la maîtrise d'un instrument s'acquiert par un travail quotidien. Si tu ne t'exerces pas au moins une heure par jour, tu ne progresseras jamais. Jamais !» Megumi se mit à regarder le bout de ses chaussures. Elle espérait qu'en faisant profil bas, l'orage passerait vite. Mais ce jour-là, M. Toranaga avait vraisemblablement envie d'en découdre. « Puisque tu désires te donner en spectacle, Megumi Fujita, je vais te demander de t'avancer devant tout le monde. » Megumi savait ce qui l'attendait et sentit les larmes lui monter aux yeux. Mais il n'était pas question de pleurer devant les autres élèves et elle prit donc sur elle. Elle fit trois pas en direction de son professeur, après quoi celui-ci commanda. « Retire la tête de ta flûte et va poser le corps. » Megumi s'exécuta comme une condamnée à mort et se dirigea vers l'endroit où elle avait posé son étui et son sac. C'est alors qu'elle envisagea son salut. Elle s'agenouilla près de son sac, dans lequel se trouvait sa boîte à biscuits. Tout en démontant le corps de sa flûte, elle entrouvrit la modeste demeure d'Horatio et murmura « Horatio-san, je vous en prie, aidez-moi. » Alors qu'elle revenait au centre de la pièce, M. Toranaga lui demanda « Que marmonnais-tu ? Allez, ne perds pas de temps, je te prie. » Megumi attendit la suite, bras le long du corps. M. Toranaga se saisit alors de sa propre tête de flûte et l'approcha de ses lèvres. « Je vous l'ai déjà expliqué mille fois. Il devrait vous être possible de moduler des sons, des graves aux suraigus, rien qu'avec la tête de vos flûtes. » La tienne est en argent, qui plus est, Megumi. Tu n'as donc pas la moindre excuse pour ne pas y arriver. Bien, je t'écoute. Megumi soupira et approcha le bout de l'instrument à ses lèvres. Elle étira les coins de sa bouche, puis se mit à souffler. Un son grave, chaud et à peu près constant monta dans la salle de cours. Mais ce n'était pas là le plus difficile. « Bien ! Monte d'un octave, je te prie !» Megumi obéit, ou plutôt, elle tâcha de le faire. Mais le résultat ne fut pas tout à fait à la hauteur de ses attentes. Elle parvint à atteindre la note, mais celle-ci, tremblante, n'était que très mal tenue. Megumi força sur son souffle, et ce fut pire encore.
« Ça suffit !» tempêta Monsieur Toranaga. « Voilà bien ce que je te reprochais. Il ne sert à rien de souffler comme un bœuf. Cela ne rendra pas ta note plus belle. Ah ! Il me semble pourtant avoir été clair. »
Monsieur Toranaga avait l'air aussi désolé qu'en colère. Il porta sa tête de flûte à ses lèvres et annonça « Regarde le peu de force que je mets dans mon souffle !» Et il souffla très délicatement, les yeux mi-clos. Seulement, aucun son ne sortit de son instrument. Rien, pas même un murmure. Ses yeux s'ouvrirent bien grands, et un instant, la peur se lut sur son visage. Ses élèves l'observaient en retenant leur respiration, abasourdis. Monsieur Toranaga éloigna l'embouchure de ses lèvres et la considéra avec suspicion. Puis, il recommença. Cette fois, c'est un son de corne de brume qui résonna dans la pièce. En fermant les yeux, on aurait pu croire qu'un paquebot venait d'accoster. Tout le monde sursauta, y compris Monsieur Toranaga. Il prit l'embouchure à deux mains et approcha la partie creuse de son œil comme s'il s'était agi d'une longue vue. « Voilà qui est étrange, » grommela-t-il. « Je ne comprends pas. » Embarrassé, il serra nerveusement la tête de la flûte dans sa main, puis recommença sa démonstration. Après le silence et les sirènes, ce fut l'apocalypse. La flûte se mit à passer des graves aux aigus sans discontinuité. Monsieur Toranaga l'écarta de sa bouche, mais à sa grande stupeur, ce ne fut pas suffisant pour mettre fin au massacre. Comme si elle était dotée d'une vie propre, l'embouchure continua à hurler ses oscillations infernales. La terreur habitait désormais le professeur. Il laissa tomber la tête de sa flûte au sol, ce qui ne changea rien au problème, puis fit deux pas en arrière. Et tout à coup, oubliant qu'il y avait des élèves devant lui, il fit volte-face et courut vers la porte pour s'échapper dans le couloir. On entendit l'écho de ses talonnettes martelant le parquet, et c'est seulement quand il devint imperceptible que la tête de flûte cessa de faire des siennes. Les élèves se regardèrent d'un air inquiet, puis, finalement, constatant que rien ne se passait, ils brisèrent le silence.
« Qu'est-ce qui s'est passé ?»
commença un élève.
« Il est devenu fou !»
fit un autre épouvanté.
« Comment ça pouvait continuer à jouer sans lui ?»
s'inquiéta une troisième élève en observant la tête de flûte gisant à terre comme s'il s'agissait d'un animal dangereux. Megumi avait très envie de rire. Mais se retenait autant qu'elle le pouvait. Elle décida de ranger ses affaires et de ne pas trop rester pour éviter les questions.
« Bien joué, Horatio-san »
chuchota-t-elle en refermant la boîte en fer blanc.
« À qui parles-tu ?»
Megumi se retourna et constata qu'une petite fille du nom d'Akiko essayait de regarder par-dessus son épaule. Elle n'avait jamais eu l'occasion d'échanger avec elle, mais avait déjà remarqué son regard pétillant et sa gentillesse. « Je parlais pour moi-même, » finit par répondre Megumi.
« Que caches-tu dans cette boîte, à ton avis ?»«
Des gâteaux.
Tu dois beaucoup les aimer alors.
Pourquoi ?» Parce que cela fait plusieurs fois que je te vois avec cette boîte. Ici, dans la rue également. On n'habite pas loin l'une de l'autre, tu sais. Tu te promènes toujours avec ?
Megumi rougit avant de répondre.
Bien sûr que non, et pourquoi tu me poses toutes ces questions ? Akiko eut un petit moment de recul.
Excuse-moi, je ne voulais pas être indiscrète.
À ce moment-là, Natsume, un garçon aux manières hautaines, s'approcha de Megumi et d'Akiko. Natsume était en plus un camarade d'école de Megumi, et ses bons résultats n'avaient de pareil que sa prétention.
« Que se passe-t-il » demanda-t-il avec un air narquois.
« Rien, » fit Akiko, « on parlait, c'est tout. Vous parliez d'une boîte, c'est elle ?» Megumi et Akiko se turent, alors que Natsume montrait du doigt la boîte en fer.
« S'il y a des gâteaux, pourquoi tu ne nous en donnerais pas, égoïste ?»
Il fit mine de s'approcher, mais Megumi lui barra le passage.
« Doucement ! Ne te crois pas tout permis. Je fais ce que je veux !» insista le garçon.
Il repoussa violemment Akiko et Megumi et tira la boîte hors du sac de cette dernière. Avec un air satisfait, parfaitement détestable, il souleva le couvercle. Megumi étouffa un cri de détresse. Mais Natsume n'eut pas le temps de voir quoi que ce soit, le couvercle lui échappa des mains, percuta son menton, puis retomba exactement à sa place sur la boîte. Le garçon, abasourdi, lâcha le tout et la boîte vint percuter le sol dans un grand fracas. Natsume, tout en se frottant la mâchoire, promena son regard entre la tête de flûte et la boîte. « Il se passe de drôles de choses ici, » grommela-t-il. « C'est toi, Megumi ? Moi, quoi ? De quoi tu parles ? Je crois que tu ne nous dis pas tout, mais je n'ai pas le temps pour le moment. Tu ne perds rien pour attendre. » Il attrapa ses affaires et s'en fut. Bientôt, les autres élèves l'imitèrent, et Akiko demeura seule avec Megumi. « Je suis désolée, c'est vraiment un idiot, » confia Akiko. « Ce n'est rien. On a l'habitude, n'est-ce pas ? Oui, surtout toi. Moi, au moins, je ne l'ai pas dans ma classe à l'école. » Megumi récupéra la boîte et l'enfourra dans son sac. Akiko sourit. « Megumi, je me trompe peut-être, mais il m'a semblé que tu savais ce qui allait arriver. » Megumi fit mine de s'offusquer. « Comment aurais-je pu savoir une chose pareille ? Oh, oublie ça. Je me fais sans doute des idées. Dis-moi, Megumi, on ne se connaît pas vraiment, n'est-ce pas ? J'aimerais bien qu'on fasse mieux connaissance. Pourquoi ne pas se voir après les cours un soir de la semaine ?» « Oui, pourquoi pas ?» fit Megumi. « Tu me diras peut-être ce que tu caches dans ta boîte, alors ?» lança malicieusement Akiko. « Mais je te l'ai dit !»« Ah, ok !» répliqua Akiko, l'œil étincelant. Un peu ennuyé, Megumi rassembla ses affaires et déclara. « Bon, je dois filer, justement. On se voit vite, promis. » Elle avança, se pencha pour ramasser la tête de flûte et essuya l'embouchure contre sa jupette. N'y résistant pas, elle souffla alors dans le bout d'instrument dont il s'échappa un beau son aigu cristallin. « Voilà » fit-elle fièrement. « Quand on ne me fait pas les gros yeux, j'y arrive parfaitement !» Dès qu'elle fut à bonne distance, elle éclata de rire. Les petits coups qu'elle sentit dans son cartable lui laissèrent à penser qu'Horacio San riait aussi de sa plaisanterie.